If you wanna work the street alone, I'll disappear for you.
Excusez-moi, j'en ai pour une minute. Je suis en train de me bagarrer, cette fois avec l'ordinateur. C'est l'heure du Club Ferré. Rendez-vous avec Davout.
Le chien pâtir et les fantasmes s'estomper.
Ah merde!
Chacun pour ses amis, tous les deux ils sont morts. Moi qui n'aimais personne, eh bien je vis en cours.
Dû la mythologie en pâtir et les fantasmes s'estomper, je ne suis pas né par hasard dans la fumée des cigares de luxe, dans l'ivresse douce d'une boîte de nuit ou dans les collines là-haut près de Saint-Tropez. Je n'ai pas été propulsé sur le devant de la scène par des chroniqueurs en mal de copie, pas plus que je ne fus l'héritier d'une riche famille. Si je devins pour tous les journaux le roi du micro-sillon, ce ne fut pas pourtant le micro-sillon qui me fit connaître aux autres, mais bien le contraire. Nuance. Artisan de fêtes sans doute somptueuses qui auraient fait pâlir Fouquet et mourir une seconde fois Vatel, j'aimais et aime encore les fêtes, quelles qu'elles soient, modestes ou éclatantes. Et que ce soit bien clair, je ne fus sponsorisé, comme on dit aujourd'hui, par personne, et pour cause. J'avais mon propre sponsor, un certain Édouard Ruault.
Alors je vais vous dire, Édouard Ruault et Eddie Barclay ont fini par se rencontrer, forcément. À un moment donné, il y a... Ce n'est pas des chemins parallèles. Et je dirais que Eddie Barclay est resté Édouard Ruault. Je m'explique, Édouard Ruault, c'est le fils de cafetier, si on peut appeler ça, de brasseur, qui était donc face à la gare de Lyon, qui était destiné au départ à reprendre la brasserie paternelle, et puis tout a changé.
Et au-dessus du café, il y avait une grande salle avec un piano. Ça, c'est en pleine guerre. Donc, Barclay a appris le piano tout seul, là-haut, à l'étage, tout seul sur un piano.
J'écoutais la radio anglaise et j'entendais des gens comme Teddy Wilson ou... Herman Citizen ou des gens comme ça qui étaient des super pianistes, et j'avais envie de jouer. Et je trouvais que dans l'appartement de mes parents, il y avait un piano, un pianola, où on pouvait encore passer des rouleaux, vous savez, avec les pieds, et que ça m'a donné vraiment l'idée de poser mes mains sur le piano pour faire des accords. Et c'est vraiment comme ça que j'ai appris à jouer du piano seul, il faut dire la vérité, j'ai pas eu de professeur. Je ne sais pas lire la musique, je ne savais pas la lire, je ne sais toujours pas la lire, mais je jouais, disons, d'instinct.
Édouard Ruault a découvert tout d'un coup que pianiste de jazz, c'était vraiment son truc. Et pianiste de bar, parce qu'il aimait la vie, il aimait la nuit, il aimait le bar. Pianiste formidable pour rencontrer des filles et puis pour commencer à draguer un peu, parce que c'est aussi un grand amateur de femmes. Vous savez, on l'appelait Barbe Blues. Il ne les tuait pas. Mais il leur faisait écouter de la musique, ce qui est déjà pas mal.
Édouard se forge un look, à l'époque où le mot n'existait pas. Il change de nom, se dote d'un bleuet à la boutonnière, d'un cigare aux lèvres, et d'une moustache fine pour la séduction. Après la mort de sa première femme, qui meurt d'une maladie neurologique foudroyante à 23 ans, il rencontre Nicole, qui va devenir la femme la plus importante de sa vie. Épouse, partenaire, associée.
Mercredi 16h. Radio Libertaire, le Ferry Club.
La Radio Liberté, 89.
Hommage appuyé à Eddie Barclay qui s'est éteint ce matin à l'âge de 84 ans. Au-delà des clichés, Eddie Barclay a véritablement révolutionné le monde des variétés. C'est lui qui le premier a cru aux 45 tours. C'est lui aussi qui a eu le flair de découvrir tant d'artistes, Brel, Dalida, Ferré, Aznavour ou d'autres. Il était pianiste lui-même, avait créé sa propre maison de disques. Elle portera longtemps son nom. Amateur de jazz, il aimait la musique, les femmes et la fête. Une figure de légende, Michel Montpontet.
C'est vrai, c'est une image qui ne lui ressemble pas. Eddie Barclay semblait en effet n'être jamais seul, et puis il avait toujours un sourire des gens qui partent faire la fête. Lui, c'était la vie en blanc, 50 ans durant. Comme des anges en enfer, jusqu'au bout de la nuit, ses amis. Barclay aimait l'amitié furieusement, comme on pratique une religion, sans modération. À Saint-Tropez, la nuit était blanche, comme tout le reste. Sauf peut-être les truffes. Et puis, à l'heure de faire la fête, il n'oubliait jamais personne.
Ma voiture vient te chercher, ce soir il y a la grande fête blanche, tu viens en blanc. Et dis, j'ai rien, je suis en jean et j'ai un pull et je n'ai rien. Tu viens à l'hôtel et je vais te préparer quelque chose. Il m'avait préparé un pantalon blanc, à lui, et une chemise blanche.
Blanc, c'est aussi la couleur du mariage, ça tombe bien. Eddie adorait tellement ça qu'il se maria 9 fois. Elles étaient toujours brunes, très jeunes et très jolies. Mais devant ses amis, il finissait toujours par en trouver une à qui il allait dire oui.
Mademoiselle Caroline Joël Gigantis.
Oui.
Bah, c'est quelqu'un, évidemment, qui a fait beaucoup d'excès. Quoi. Ça allait aussi avec son style de vie, évidemment. Et jusqu'au bout, son docteur m'a dit qu'encore hier, il a trempé ses lèvres dans une bonne bouteille de Bordeaux.
Les bonnes bouteilles de Bordeaux étaient pourtant rares dans le café parental. Mais il en eut très vite marre de servir au comptoir des petits noirs, d'où son goût du blanc. Alors il eut le disque, les livraisons à bicyclette, 60 km par jour, par tout temps. Mais Eddie avait du flair et le succès vint vite.
J'entendais beaucoup de musique dans la maison de disque, alors que maintenant on entend beaucoup de machines à calculer.
Dites-moi, j'ai un déjeuner Léo Ferré jeudi.
Barclay était parfait dans ce rôle d'ami producteur et de producteur ami. Ami des stars, bien sûr, qu'il découvrait. Ferré, Brel, Mitchell, Dalida, Nougaro, c'est lui, même si c'est aussi beaucoup eux. Sa dernière compagne était la première blonde, peut-être pour conjurer le sort du temps qui passe.
Léo Ferré, idéalement, pour un artiste, qu'est-ce que doit être une maison de disques et qu'est-ce qu'elle doit faire pour lui ?
Une maison de disques est faite pour faire des disques d'abord, à partir d'un artiste, et puis elle doit s'occuper de lui. D'une façon d'abord amicale, si c'est possible, ce qui est de plus en plus rare. Et puis, aujourd'hui on parle de promotion, bon ça c'est normal, c'est un commerce quoi. Le disque est un commerce puisqu'on appelle les artistes, on nous appelle des produits. Une maison de disques, cela dit, doit forcément faire le départ entre ce que fait l'artiste et ce qui va advenir dans le produit qui va sortir de la tête, des mains ou de la voix de l'artiste. Et ne pas penser exclusivement et toujours au rendement et au pourcentage qu'il doit donner à l'artiste, et attendre des fois, ne pas se décourager si on ne vend pas tout de suite ce qu'on pensait vendre. Cela dit, c'est une position difficile pour une maison de disques de lancer un artiste. Et d'ailleurs, je pense que ça fait partie de leur travail. Ils lancent 10 artistes pour en garder un, quoi. Voilà, parce que c'est un peu... Mais ça n'est pas... Comment dirais-je ? Il y a la maison de disque et l'artiste, et ça ne va pas d'accord, ça, moralement, non, artistiquement.
Mmh.
T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vente qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou, faut se la faire, mais c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon, qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on est feuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue et ma boule, joli môme.
Mais quand on est quelqu'un qui représente un produit intéressant pour toute maison de disques comme vous, la différence se fait plus que sur le niveau des rapports humains, je suppose.
Oui, mais il faut... Dans l'exemple de Barclay, par exemple, moi j'étais dans une maison de disques avant qui s'appelait Odéon, et j'ai connu Barclay, sans qu'on se salue d'ailleurs, dans un petit bureau d'un éditeur, en 55, 56, par là.
Rencontre provoquée, ou c'était...
Non, non, pas du tout. J'ai vu Barclay, je le revois encore, parce que c'était significatif et curieux de voir ça. Il cherchait peut-être des chansons dans des formats. Il était en train de manger une pomme. Il m'a regardé comme ça, puis... À ce moment-là, c'est lui qui travaillait, il faisait tout dans la maison. Vous savez qu'au début, c'est lui qui transportait les disques sur une bicyclette. Mmh. L'année d'après, il a acheté une petite voiture.
Monsieur Barclay m'a demandé, Léo Ferré, je veux un succès, afin que je puisse promotionner à Europe 1 et chez Fontaine et chez Lourier. J'ai du frêne et moi pas con, j'ai répondu, voilà patron ce que j'ai répondu. Yes, yes, et Bombay, tirame la gamba, tirame la gamba. Yes, yes, Bombay, tirame la gamba sur le travail. Monsieur Barclay m'a signifié, Léo Ferré, on met le paquet. Tirame la gamba afin que je puisse, tirame la gamba bien m'attraquer. À Europe 1, et chez Fontaine, et chez Laurier, et chez Dufresne, et moi pas fou, du tac au tac, j'ai dit mon loup, v'là ta matraque. Yes, yes, Bombay, tirame la gamba, tirame la gamba. Yes, yes, Bombay, tirame la gamba, sur le travail. Monsieur Barclay m'a dit, mon cher Léo Ferré, ça ne vaut pas cher, tirame la gamba, ben si tu me fais, tirame la gamba, un beau succès. pour Europe 1, et pour Fontaine, et pour Laurier, et pour Dufresne, je suis pas salaud, et pour la peine, je vendrais Rabot avec Verlaine. Yes, but can I? Tirame la gamba, tirame la gamba, yes, but can I? Tirame la gamba, ma fin de bail, ma fin de bail, ouais.
De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise. Rien de plus cher que la chanson grise où l'indécis au précis se joint. C'est des beaux yeux derrière des voiles, c'est le grand jour tremblant de midi, c'est par un ciel d'automne tiédi, le bleu fouillis des claires étoiles. Car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance. Oh, la nuance, seule fiance, le rêve au rêve et la flûte au corps. Puis du plus loin, la pointe assassine, l'esprit cruel et le rire impur qui font pleurer les yeux de l'azur et tout cet ail de basse cuisine. Prends l'éloquence et tord-lui son cou et tu feras bien en train d'énergie de rendre un peu la rime à sa vie. Si l'on y veille, elle ira jusqu'où? Oh, qui dira les torts de la rime? Quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou qui sonne creux et faux sous la lime de la musique encore et toujours? Soit la chose envolée qu'on sent qui fuit d'une âme en allée vers d'autres cieux à d'autres amours. Que ton verre soit la bonne aventure éparse au vent crispé du matin qui va fleurant la menthe et le thym et tout le reste. Et littérature, et tout le reste, et littérature. Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour, il suait d'obéissance, très intelligent, pourtant d'éthique noire, quelque semblait prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, en passant il tirait la langue, les deux poings à laine, et dans ses yeux fermés voyait des points. Une porte s'ouvrait sur le soir à la lampe. On le voyait là-haut qui râlait sur la rampe sous un golfe de jour pendant du toit. L'été surtout vaincu, stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là tranquille et livrant ses avait des odeurs du jour, le jardinet derrière la maison, en hiver s'illuminait, gisant au pied d'un mur enterré dans la Marne, et pour des visions écrasant soleil d'Arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers, qui, chétif, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout, sous des habits puant la foire et tout vieillot, conversait avec la douceur des idiots. Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement, c'était bon, elle avait le bleu regard qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravit. Forêt, soleil, rive, savane, il cédait aux journaux illustrés, où rouge il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun folle en robe d'indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin en secouant ses tresses, et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon, et par elle meurtrie des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Il craignait les blafards dimanches de décembre, où pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes qu'au soir fauve noir en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg, où les crieurs, en trois roulements de tambour, font autour des édits rire et gronder les foules. Il rêvait la prairie amoureuse, où des houles lumineuses, parfums saints, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue, aux persiennes closes, aux thés bleus, âcrement prise d'humilité, il lisait son roman sans cesse médité. Plein de lourds ciels au creux et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement, déroutes et pitiés, tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas seul et couché sur des pièces de toile écrues.
Ce qu'il y a d'essentiel chez Barclay, vous savez, j'en parle d'autant plus facilement que nous avons eu bien sûr de la sympathie l'un pour l'autre, mais il y a eu des tas de problèmes entre nous, ce qui arrive souvent entre les maisons de disques et l'artiste. Mais pour moi, c'était, pour lui, c'était pas une maison de disques, oui, c'était le type. Avant le disque, c'était Barclay, c'était lui, c'était vraiment lui. Et si j'avais quelque chose à dire, j'allais le voir lui. Aujourd'hui, les artistes vont voir qui. Et pour les jeunes qui débutent aujourd'hui, c'est très difficile de se faire admettre et de pouvoir se faire écouter, entendre par les producteurs qui n'écoutent pas. Il faut faire non seulement la petite cassette, mais donc il coûte de l'argent pour un jeune débutant. Mais après, il faut avoir la petite combine, il faut faire écouter la cassette. Ça n'hésitait pas du temps de Barclay. Et en 1960, fin 60, il m'a contacté. après avoir su que j'étais en contact avec, aussi avec la maison Philips. Il m'a demandé de le voir, on l'a vu, je l'ai vu. On a mangé dans un restaurant tous les deux et puis on s'est mis d'accord et j'ai signé un contrat pour 3 ans. Pour 1 an, je crois. Et l'année d'après, il m'a fait signer un contrat pour 3 ans. Parce qu'il avait compris que ça pouvait marcher, quoi, avec moi. Ce qu'il y a chez Barclay était l'âme de sa maison, quoi.
Paname, on t'a chanté sur tous les tons. Y'a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de quoi donc. Paname, moi c'est tes yeux, moi c'est ta peau que je veux baiser comme il faut, comme savent baiser les gigolos. Paname, range tes marlous, range tes bistrots, range tes pépés, range tes ballots, range tes poulets, range tes autos. Paname, et viens m'aimer comme autrefois, la nuit surtout quand toi et moi, on marchait vers on ne savait quoi. Paname, il y a des noms de rues que l'on oublie, c'est dans ces rues qu'après minuit, tu me faisais voir ton petit Paris. Paname, quand tu chialais dans tes klaxons, perdu là-bas parmi les hommes, tu venais vers moi comme une vraie môme. Paname, ce soir j'ai envie de danser, de danser avec tes pavés, que le monde regarde avec ses pieds. Paname, t'es belle, tu sais, sous tes lampions, des fois quand tu pars en saison, dans les bras d'un accordéon. Paname, quand tu t'habilles avec du bleu, ça fait sortir les amoureux qui disent à Paris tous les deux. Paname, quand tu t'habilles avec du gris, les couturiers n'ont qu'un souci, c'est de foutre en gris toutes les souris. Paname, quand tu t'ennuies, tu fais les quais, tu fais la scène et les noyers, ça fait prendre l'air et ça distrait. Paname, c'est fou ce que tu peux faire poser, mais les gens savent pas qui tu es, ils vivent chez toi mais te voient jamais. Paname, le soleil a mis son pyjama, toi tu t'allumes et dans tes bas, y'a monsieur Haussmann qui te fait du plat. Paname, monte avec moi, combien veux-tu? Y'a 2000 ans que t'es dans la rue, des fois que je te refasse une vertu. Paname, si tu souriais, j'aurais ton charme, si tu pleurais, j'aurais tes larmes, si on te frappait, je prendrais les armes. Paname, tu n'es pas pour moi qu'un frisson, qu'une idée, qu'une fille à chanson, et c'est pour ça que je crie ton nom. Paname, 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 Paname.
je vous écris du paradis où je trouve que la terre c'est très joli. Puisque c'est vrai, faut bien que je le dise. Je vais vous mettre mon cœur à nu, je suis peut-être un soldat inconnu, mais la place était déjà prise. Alors, comme j'avais un copain, je crois que c'était un Américain, il m'a fait monter à l'anglaise. Le bon Dieu qui reconnaît pas le dollar, si je les ai eus, c'est un hasard. Je leur ai chanté la Marseillaise. Mon général, j'ai souvenance d'une pitié qui venait de la France. Paraît qu'il faut plus en parler. Il y en a que ça gêne aux entournures. Je me souviens des manucures. Je n'ai plus de main, je peux rien prouver. Mais il y a une chose que je peux vous dire. Paraît qu'on veut vous faire élire. C'est vrai, sans blague, c'est enfantin. Ils savent pas que les vacheries de la gloire, c'est qu'au milieu d'une page d'histoire, il faut savoir passer la main. Je me souviens du petit bistrot de la gare du Nord, de votre photo que je portais comme une relique. Mon général, c'est peut-être idiot, mais je ne sais plus trouver les mots. C'était peut-être quelque chose d'héroïque. Ah oui, c'est ça. Ils m'ont emmené, je crois bien que j'avais les poings liés. Au fond, qu'est-ce que ça peut vous faire? Pensez qu'ils voulaient me faire causer. Comme j'avais rien à leur donner, ils m'ont mis le cœur en bandoulière. Mon général, j'ai souvenance de mes prisons hors de la France. Vous étiez loin, vous ne saviez pas. On se fait à tout, même au tragique. J'ai toujours eu le sens épique, mais pas pour ces sortes de galas. Si d'aventure je viens à Paname, il faudra rien dire à votre dame. Je vous sortirai incognito. Je vous emmènerai dans mes domaines. Je vous demande pardon de vous faire de la peine. J'aurai pas la gueule d'un héros. Je me souviens du matin clair. Il n'y avait même pas un reporter. J'en ai encore la chair de poule. C'était un hôtel si parfait que les clients n'y ressortaient jamais. Une vraie station, une vraie bourboule. Je me souviens même à quoi bon. C'était pour moi ma seule passion. J'aimais les chiens, Dieu me le pardonne. J'en ai vu un qui m'a souri. J'y suis allé, puis j'ai compris. Il l'avait dressé comme un homme. Mon général, j'ai souvenance que vous avez sauvé la France. C'est Jeanne d'Arc qui me l'a dit. C'est une femme qui avait de la technique, malgré sa fin peu catholique. Vous aviez les mêmes soucis. Et puisqu'il faut sur cette terre que chacun passe solitaire, vous avez le droit de rêver. Mon général, pour vos vacances, je vous raconterai l'histoire de France, des fois que vous comprendriez.
Et t'étais gaulliste à l'époque.
Mais genre, parce que j'aurais été machiniste.
Mais tu l'es plus quand même.
Mais le gaullisme de ce moment-là n'a plus été le gaullisme d'après. Moi, j'ai été contre De Gaulle en 47. J'ai fait une chanson qui s'appelait Mon Général. J'étais en Martinique. J'ai fait cette chanson qui s'appelle Mon Général, qui fait partie d'un disque. Tiens, ça a été encore un déhaut-conflage de Barclay, ça. Quand j'avais fait le Mon Général, j'avais...
C'était pour le général De Gaulle.
Non, Mon Général, c'était une chanson contre le général De Gaulle. De Gaulle, c'était l'histoire d'un soldat qui était mort, qui était au paradis, qui lui écrivait, il lui disait, il est passé la main, quoi. Vous avez été un grand homme, maintenant, ça va, restez comme ça, quoi, c'est pas la peine. C'était peut-être mieux dit que ça. Tu peux retrouver le disque facilement, le passer sur les antennes, mais non, il ne reste plus rien. De toute façon, on n'a jamais rien risqué. Je me souviens que je chantais cette chanson, et tous les gaullistes de l'époque venaient m'entendre au Quoi de Libette, qui était un cabaret à la rue du Pré-au-Clair, tous les gaullistes venaient et ils m'applaudissaient, quoi, parce que c'était une chanson contre laquelle on ne pouvait rien dire du point de vue politique, puisque c'était la vérité. Tu comprends ? Et oui, le dégonflage de Barclay, voilà. Quand j'ai enregistré cette chanson, chez Barclay, donc après 61, Jean-Michel avait fait une belle orchestration avec des violons, c'était très triste, c'était beau, etc. Il n'a jamais sorti de disque. Et un jour, j'ai chanté cette chanson, en public, à l'ABC. Alors là, je lui ai dit, écoute, tu m'enregistres cette chanson en public, tu la sors sous ma responsabilité. En disant que je t'ai obligé, moi, artiste, à m'enregistrer en public et que tu as été obligé d'enregistrer mon tour de chant. Alors c'est comme ça que la chanson peut être entendue, ça fait partie d'un disque rouge qui est dédié chez Barclay, mais le bon disque, il n'est jamais sorti.
Voilà. Elle est vieille, cette chanson, alors, hein? En fait. Elle date de...
47.
Nous sommes en 1967. Léo Ferré enregistre un disque qui s'appelle 13 chansons de Léo Ferré. Et le disque qui sort n'en contient plus que 12. Sur France Inter, il s'en explique.
Au mois d'avril, j'enregistrais 13 chansons dans les studios de la compagnie phonographique française, la rue Hoche à Paris.
Oui.
C'est-à-dire que j'ai pas fait ça dans un tunnel. Il y avait des musiciens, j'ai enregistré ça, on m'a dit que c'était très bien. Et le disque a été pressé avec 13 chansons. Le disque est actuellement chez mon avocat. Le disque a été pressé avec l'étiquette, avec le nom de toutes les chansons, avec le minutage, même des chansons pour faciliter. Même ils sont très gentils pour les gens de radio, n'est-ce pas? Et tout a été changé à un moment. On ne sort plus que le disque avec 12 chansons parce qu'on a retiré du disque que je veux, qui paraisse, une chanson que j'ai écrite pour une chanteuse morte. Ça s'appelle « À une chanteuse morte », une chanteuse que tout le monde a connue, tout le monde a aimée.
Nous allons dire des noms, oui.
Edith Piaf.
Oui. Bien sûr.
Et on s'est ému, un marchand, je ne sais pas comment on appelle ça, un imprésario, non.
Un
manager.
Manager,
oui. J'ai dit à la fin à Edith, tu sais, j'ai fait une chanson affectueuse, mais un peu bourrue. Et je lui dis, on t'a pas remplacé, en substance, quoi que pense et que dise et que fasse M. Stark.
Vous avez parlé de M. Stark pour deux raisons.
Parce
d'abord
est...
pour la rime.
C'est pas exclu, vous savez. Et d'autre part, ça rime avec lampe à arc.
Voilà.
Et d'autre part, il est évident que fabrique des objets manufacturés. On m'a dit que je ne suis pas contre les objets manufacturés, il y en a de bons, il y en a de mauvais. Par exemple, j'ai une bonne cafetière, vous en servez longtemps quand elle est mauvaise. Bon, je ne suis pas contre. Cette promiscuité qui est gênante. Il y a l'artiste et puis il y a les objets manufacturés. Il ne faudrait pas mélanger les choses, vous comprenez ? Bon. Et alors, ce monsieur, le directeur de la compagnie phonographique française, s'est ému des revendications de ce marchand, enfin, et a dit, bon, vous ne voulez pas que la chanson paraisse, ben elle ne paraît pas. Alors moi, j'ai signé un contrat avec la compagnie phonographique française, et aujourd'hui, cette compagnie a rompu son contrat.
Ben, il y a une erreur, parce que c'était pas monsieur Stark. Yannis, c'est ce directeur de chez Barclay, que Barclay a foutu à la porte, parce que c'était un directeur qui valait pas trois pélos, hein. Je l'ai su après. Parce que Stark, c'est un type intelligent dans son métier, très intelligent. Alors je m'étais étonné, ça. Et j'ai su qu'il était, qu'il n'avait rien fait, il n'était pas intervenu. Et on avait mis ça sur le dos à ce type. Et moi, j'avais cru, quoi. Et ce qu'il y a, c'est que j'avais écrit à Barclay quand il a supprimé le disque. Je lui ai dit, si vous êtes tous intelligents, vous faites une chose et ce sera un succès formidable. C'est pas pour moi que je parle, c'est pour la chanteuse. Il s'agissait de Mireille Mathieu, hein. Mais moi je la chante pas, mais vous la faites chanter à cette femme. Elle fera un succès énorme parce qu'elle se moquera un peu d'elle-même. Pensez-vous, j'ai parlé pour ne rien dire, quoi.
Le texte, enfin, l'enregistrement de 67, tu l'as plus?
Ah non,
c'est
moi
j'ai pas eu.
Mais il y en a qui ont gardé le disque, il paraît. On m'a dit ça.
Et ben justement, je suis parti à la quête de ce disque.
Et t'as trouvé?
Et je l'ai trouvé, on va te le faire passer, tu vois.
Oh là.
T'avais un nom d'oiseau et tu chantais comme cent, comme 110 000 oiseaux qui auraient la gorge en sang. À force de gueuler, gueuler même des conneries, mais avec quelle allure, t'étais un con de génie. T'étais un con de génie. T'avais un nom d'oiseau et la voix d'Attila. On t'entendait d'ici, on t'écoutait de là-bas. T'étais à toi toute seule, le bal des petits lits noirs. Un Wagner de carrefour, un Bayreuth de trottoir. Un Bayreuth de trottoir. Et il y avait dans tes mains comme une bénédiction. Et comme tu t'en servais pour bénir tous ces cons gentils émus qu'on appelle les gens qui devenant public deviennent intelligents. Et bien intelligent. C'est pas toujours le cas, bien sûr, même à Paris. Les auteurs de la merde, il faut que ça mange aussi. Toi, tu t'es débrouillé pour passer au travers. T'aurais chanté François comme de l'Apollinaire. Comme de l'Apollinaire. On t'a pas remplacé, bien qu'on ait mis le paquet. Le pognon et ton ombre, ils peuvent pas s'expliquer. Sous les projets miracles et sous la lampe à arc. Quoi que pense et que dise et que fasse Monsieur Stark. Et que fasse Monsieur Stark. Arrêtez! Arrêtez la musique!
Ce métier, c'est d'abord quelqu'un qui arrive sur une scène. Et c'est difficile. Sur une scène, avec un trou noir. Une vedette, pour moi, ça n'existe pas. Une vedette, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je viens de faire l'Olympia chez Bruno pendant 3 semaines. Admettons, c'était plein tous les soirs, ou à peu près, enfin, sauf peut-être le dimanche après-midi. J'ai peut-être vu à Paris, il y a peut-être, mettons au grand maximum, 50 000 personnes qui m'ont vu en 3 semaines. Il y a 8 millions d'habitants à Paris. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une vedette? D'autre part, je vous écoutais tout à l'heure, et ils connaissent bien leur métier, et Eddie, et Louis Guy. Et un a parlé de couture, il habille les gens, et l'autre d'horticulture, il met des... Et c'est bien, parce que c'est l'art aussi. Mais imaginez-vous que quand on commence dans ce métier, on est seul. Personne ne vous aide. Ni M. Barclay, ni M. Cogatrix, ni M. Louis Guy, qui lui est arrivé peut-être. Non, non, non.
Vous l'aviez chanté d'ailleurs.
Oui, je sais.
Ça s'appelait La Mafia.
Oui, mais c'est pas pareil. Nous en parlerons si vous voulez. On va éviter cet abcès. Je sais que 17 ans après, je suis retourné chez Cogatrix. Alors évidemment, j'ai écrit La Mafia. Bon. Je disais que vous êtes sur une scène tout seul, et quand vous commencez, personne ne vous connaît, et un beau jour, vous voulez chanter des chansons, vous vous rendez compte. Vous allez dans une maison d'édition, on vous fout poliment dehors, ou pas poliment, ça arrive aussi. Vous arrivez dans une maison de disques, bon, on vous fait faire un essai. Dans les maisons de disques, il y a des gens compétents, mais il y a surtout des gens incompétents. Et singulièrement, ce qu'on appelle les directeurs artistiques. Vous comprenez? Ce métier est fait de malentendus. Il y a des gens qui chantent, ceux qui chantent, lorsque une vedette, quelle qu'elle soit, remplit une salle avec ce qu'elle fait, même quand elle chante des conneries. Remarquez que les conneries, c'est jamais elle qui les écrit, on les fait chanter. On les fait écrire pour elle, on l'a dit tout à l'heure.
Oui, elle accepte de les chanter par la même occasion.
Elle accepte de les chanter, peut-être. Bon, enfin, elle fait du monde. Elle fait du monde, donc une vedette, c'est quelqu'un qui remplit une salle. On ne fait pas de cadeau à un chanteur. Vous comprenez? Un chanteur, un artiste, c'est un mec tout seul, au début. Après, on se dit, d'abord, on nous découvre toujours, 20 ans après. Bon, je l'ai connu dans un cabaret, il chantait aux chansons, au piano, comme ça, il était comme ça, etc. Mais quand j'ai débuté, moi, que je chantais au piano, c'était pas marrant, on me connaissait pas. Moi, j'ai commencé au bœuf sur le toit, au piano, comme ça, avec l'inénarrable Moïsès. Je dis inénarrable dans le bon sens, c'est un monsieur adorable. Il continue cette tradition du bœuf sur le toit. Eh bien, on ne me connaissait pas. L'imprésario qui m'avait fait faire cette affaire avait mis il avait imprimé 5 000 cartes. J'ai vu Léo Ferrer. Je lui dis, mais c'est une erreur, pourquoi il faut... Il me dit, non, ça fait plus espagnol, c'est bien comme ça. Avec ce que chantait, il paraît que ça marche. Eh bien, je chantais au piano des chansons qui étaient pas... qui étaient dans l'esprit, en tout cas, ce que je fais maintenant. Les gens ne me connaissaient pas. Et puis les gens buvaient. Et j'étais obligé de partir souvent de mon piano, parce que je n'ai jamais admis qu'on m'interrompe quand je chante. Et c'est la raison pour laquelle je chantais peu aussi. Comprenez ? Je voulais mettre au point cette question de malentendu. En que des gens qui veulent, pour des raisons d'ailleurs, jamais amicales, mais enfin, c'est leur métier, vendre des artistes, et l'artiste qui accepte ou non de se vendre. Il y a entre ces gens-là et nous un mur.
Léo Ferré, je ne sais pas si vous considérez que vous êtes une vedette, mais la rumeur publique veut bien le dire. Mais vous avez eu du mal à y arriver. Ça a été dur, ça a été une route longue.
C'est, au fond, il ne faut pas dire que j'ai eu du mal, parce que il faut savoir attendre. Et moi, j'arrivais avec mes trucs, vous vous rendez compte ce que je chantais à une époque. Maintenant, on dit il y a 20 ans, c'est le Moyen-Âge. L'histoire va tellement vite. Je chantais des choses incroyables. Vous comprenez, quand on remet ça dans la tête.
Je m'en souviens.
Je disais des choses. Et les gens disaient, qu'est-ce que c'est ce type? D'où il vient, quoi? Ça veut dire. Mais des fois avec. Des fois fraternellement, mais des fois avec antipathie.
Je suis arrivé à 8h15. J'ai crié une sèche en lisant le courrier. Dans cette loge d'artistes où s'arrête la gloire, le temps de se refaire une petite beauté. Regarde-moi bien, je suis une idole. J'ai passé mes jours au fil du rasoir, quand on vend sa gueule sous des projecteurs, on peut pas se permettre d'avoir les cheveux noirs et une barbe toute blanche, même pour trois quarts d'heure. J'ai mis mes souliers tantôt bottillon, tantôt mocassin, ça dépend des fois. Et quand t'as marché entre deux chansons, j'irais bien pieds nus, seulement ça se fait pas. Regarde-moi bien, je suis une idole. Si j'ai fait mes yeux, c'est pour agrandir les deux petits quinquets que maman m'a donné. Je les voudrais bien verts, d'ailleurs je le fais dire, mais ils sont châtains en réalité. J'ai mis mon costume sorti du pressing, ce vestiaire anglais où on lave même le spleen. Un chanteur qui chante la révolution, sa planque, sa cravate, sa mèle colle dans le ton. Regarde-moi bien, je suis une idole. J'ai bronzé ma gueule d'un vieux fond de soleil qu'on me refile en tube chez mon parfumeur. Et quand je fous mes codes sous l'arc des merveilles, on voit des canaux qu'on prend pour des pleurs. Quand tout est fini, le rideau baissé, et que j'entends mourir la rumeur complice, et qu'il n'y a plus rien qu'un silence armé, par tant de passants sous tant de coulisses. Regarde-moi bien, je suis une idole. Et je retrouve mon corps, celui que je rencontre les matins civils, quand je me prends pour moi, le même que l'on voit, le même que l'on montre à je ne sais plus qui, pour je ne sais plus quoi. Et je m'en vais souper, traqué dans un coin, avec mes copains sur mon addition, en rasant les tables, en me cachant des mains, en disant tout bas la fin de ma chanson. Regardez-moi bien, je suis qu'un artiste.
Et maintenant, je voudrais, je m'excuse, je tiens un peu le tube. Le tube, alors moi, je suis pas d'accord. Un tube, ça se fabrique pas. Un tube, c'est parce que, à un moment, il y a quelque chose qui se passe, qui fait que les gens achètent le disque. Et, vous savez, il n'y a pas de recette du tube. Et je ne connais pas. Il y a ici un compositeur, il y a ici un compositeur. Il n'y a pas de gens qui se disent, ah, ce matin, je me lève et je vais faire un tube.
Oui.
Il n'y a pas de recette, parce que alors, il n'y aurait que des tubes.
Mais on vendrait ça chez le quincaillier.
Je dis que, dit un jour, si on mettait la Veverum de Mozart dans les machines à sous, la Veverum de Mozart serait un tube. Monsieur Barclay vendrait 500 000 disques. Ou 1 million, parce que Mozart, tout de même. Et secondement, l'autre jour, j'ai vu un programme de musique symphonique sérieuse, très sérieuse, qui commençait par l'adagietto de la 10e symphonie de Gustave Mahler, ce malheureux oublié, et qui a été exhumé de son oubli par le metteur en scène italien Luschino Visconti. Demandez aux gens qui est-ce qui a fait la musique du film, ils vous diront, ah, oh, cette belle musique de Visconti. Vous comprenez, c'est un tube. Et maintenant, on joue ça. On ne va pas jusqu'à jouer toute la symphonie. Non, ce serait trop long. On ne joue que le tube. Qu'est-ce que c'est que le tube? Et peut-être, c'est aussi des fois la beauté.
C'est un moment de rencontre entre le public et le créateur.
Vous vous dites que ça se fabrique?
Non, je dis que ça se découvre. Je suis assez de l'avis de Léo là-dessus. C'est un concours de circonstances. J'en ai eu un par hasard qui s'appelle Popcorn, dont vous avez entendu parler. Bien, c'est vraiment un concours de circonstances.
Je veux dire, alors, je m'excuse, mais alors là, c'est une fleur à Barclay. Parce que M. Barclay, c'est lui qui a fait sa maison. Hein, tout à l'heure, maintenant, il voyage beaucoup, il s'en fout un peu, mais il a fait sa maison. Il était pianiste, il est toujours d'ailleurs, il était pianiste avec des copains. Il s'est retourné, il n'avait pas d'argent, il avait 50 000 anciens francs, ça se passait en 48, 47, je sais pas. Et il a fait un disque avec des copains en disant, je vous paierai, ben, j'aurais vendu le disque. Il allait livrer
en vélo.
Après, 2 ans après ou 1 an après, il avait une Juve à 4. Il allait livrer en province. Oui. Maintenant, il a un Boeing, mais il ne livre plus. Il fait livrer.
Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès, et dedans comme un matelot une fille qui tangue un air anglais. Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié, et dans le port de cette nuit une fille qui tangue et vient mouiller. Cet extra. Des cheveux qui tombent comme le soir, et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir, et ce mal qui nous fait du bien. Cet extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie, et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. Cet extra. Ces bas qui tiennent au perché comme les cordes d'un violon, et cette chair que vient troubler
l'archer qui coule ma chanson. C'est extra, et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Une robe de cuir comme un oubli qu'aurait du chien sans faire exprès, et dedans comme un matin gris une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blouses qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire, et dans la musique du silence une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra.
Je m'excuse, mais j'ai oublié tout à l'heure parce que j'ai perdu le fil. Je voulais parler à Barclay. Histoire de cette musique jouée par un cadavre de guitare. Monsieur Barclay jouait aux boules. Mmh. Hein, tout d'un coup, écoute, ça c'est extraordinaire. Tout d'un coup, il entend. C'est lui qui me l'a dit. C'est, il entend. Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est là où il a du talent.
C'est là son talent, mais évidemment,
qu'est-ce qu'il fait?
C'est son
téléphone.
Talent.
Qu'est-ce que c'est? Quel est le cet Américain? Bon, il téléphone en Amérique, il achète les droits. Et Monsieur Barclay distribue en France cette musique qui monte, mais un tube, vous comprenez?
Mais oui, mais c'est ça le talent, c'est de découvrir. D'ailleurs, un compositeur, quand il se lève le matin et qu'il écrit de la musique, il doit aussi découvrir. Vous savez, le drame de la feuille blanche qu'il faut remplir, c'est dramatique pour un compositeur. Moi, je parle en ce moment pour les compositeurs qui n'ont pas le bonheur de pouvoir chanter leurs œuvres, n'est-ce pas? Moi, je suis uniquement compositeur, je n'écris pas de paroles, mais c'est très difficile de se dire ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Il y a le mariage avec la vedette. Par exemple, il y a des airs qu'un compositeur écrit. Et qui lui paraissent vraiment très cheap, très bon marché, très facile, qui pense même que ça ressemble à beaucoup d'autres airs. Bon, et tout à coup, il y a un mariage miraculeux avec une interprète. Je pense à Piaf. Moi, je me souviens de chansons. Bruno, tu te souviens...
Elle chantait l'avenir du téléphone.
Elle chantait l'avenir du téléphone. C'est fantastique. Tu te souviens de Bravo pour le clown?
Oui, oui.
Eh bien, Bravo pour le clown, je n'osais pas aller la lui présenter parce que je trouvais ça ridicule. Et tu te souviens, nous avons fait l'orchestration en 48 heures, elle est arrivée à l'Olympia, et il faut dire que le succès de cette chanson, c'est l'interprète qui a trouvé le geste du clown. Donc, il y a, dans la réussite d'un air, il y a mariage avec l'interprète. Évidemment, quand Léo Ferré s'écrit une chanson, le mariage, il est tout trouvé, puisqu'il est là, il est son interprète. Mais le mariage existe néanmoins, même entre Léo Ferré, compositeur-auteur, et l'interprète Léo Ferré. Ouais,
je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules, mais la solitude. La solitude.
Les moules sont d'une texture nouvelle, je vous avertis. Ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas, dès ce jour, le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant vous, car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour. De toute première instance que les laveries automatiques au coin des rues soient aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou de voie libre. Les flics du détercif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. Et pourtant, désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur. Les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Mais la solitude. La solitude, la solitude, la solitude. Le code civil, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc. Les oiseaux piaillant debout, chinés sous les becs de la nuit, avec leurs crêpes de coutil et leurs fourreaux fleuris de trous. À mes compains du pain rassis, à mes frangins de l'entreprise, à ceux qui gerçaient leurs chemises aux givres des pernaux minuit, à l'araignée, la toile au vent, à Biftec, baron du homard, et sa technique du caviar qui ressemblait à du hareng. Bec d'azur du pif content qui crachait côté de Sancerre sur les midnight à moitié vert chez un bistre de cyclin. Aux spécialistes du chkoumoum qui se sapait de courant d'air et qui prenait pour un steamer la compagnie blonde d'une clone. Au pané qui, la langue au pas, en plein hiver manger des nèfles, à ceux pour qui deux sous de trèfle, ça valait une cravena. À cela, je laisse la fleur de mon désespoir en aller, maintenant que je suis paré et que je vais chez le coiffeur. Pauvre mec, mon pauvre Pierrot, vois la lune qui te cafarde, cette américaine moucharde qu'ils ont vidée de ton pipeau. Ils t'ont pelé comme un mouton avec un ciseau à surtaxe, progressivement quand tu maxes, tu belles à tout va la chanson. Tu n'achètes plus que du vent, encore que la nuit venue, il y a ta cavale dans la rue qui est nuit en te klaxonnant. Le droit, la loi, la foi et toi, et une éponge de vin sûr. Ton Beaujolais qui fait le mur, et ta pépée qui fait le toit. Et si vraiment Dieu existait, comme le disait Bakounine, ce camarade vitamine, il faudrait s'en débarrasser. Tu traînes ton crocoridé, 50 berges dans les flancs, et tes chiens qui mordent dedans le poterie de l'amitié. Un poète absent des pieds, on lave pas la poésie, ça se défenestre et ça crie aux gens perdus. Des mots fériés, des mots, oui, des mots comme le nouveau monde, des mots venus de l'autre côté de la rive, des mots tranquilles comme mon chien qui dort, des mots chargés des lèvres constellées dans le dictionnaire des constellations de mots. Et c'est le bonnet noir que nous mettrons sur le vocabulaire. Nous ferons un séminaire particulier avec des grammairiens particuliers aussi, et chargés de mettre des perruques aux vieilles bouffiasses littéromanes. Il importe que le mot amour soit rempli de mystère et non de péché, de tabou, de vertu, de carnaval romain, des draps couverts dans le salas et dans l'objet de la policière voyance ou voyeurie. Nous mettrons de longs cheveux aux prêtres de la rue pour leur apprendre à s'appeler dès lors Monsieur l'abbé Reta Aywa, Monsieur l'abbé Bébé Friquetti Friqueta. Et nous ferons des prières inversées et nous lancerons à la tête des gens des mots sans culotte, sans bande à cul, sans rien qui puisse jamais remettre en question la vieille, la très vieille et très ancienne des mots des querelles du qu'en diront-ils. Mais Dieu, je fais quand même mes cochoncetés en toute quiétude sous prétexte qu'on m'a béni et que j'ai signé chez monsieur le maire de mes deux mairies alors que ses enfants dans les rues sont tout seuls et s'inventent la vraie galaxie de l'amour instantané. Alors que ses enfants dans les rues s'aiment et s'aimeront, alors que cela est indéniable, alors que cela sera de toute évidence et de toute éternité. Je parle pour dans 10 siècles et je prends date. On peut me mettre en cabane, on peut me rire au nez. Ça dépend de quel rire. Je provoque à l'amour et à la révolution. Yes, I am an immense provocateur. Je vous l'ai dit, des armes et des mots, c'est pareil. Ça tue pareil. Il faut tuer l'intelligence des mots anciens avec des mots tout relatifs, courbes, comme tu voudras. Il faut mettre Euclide dans une poubelle. Mettez-vous bien dans la courbure. C'est râper vos trucs et manigances, vos démocraties, où il n'est pas question de monter à l'hôtel avec une fille si elle ne vous est pas collée par la jurisprudence. C'est râpé, messieurs de la romance. Nous sommes pour un langage auquel vous n'entravez que quick. Nous sommes des chiens. Les chiens, quand ils sentent la compagnie, ils se dérangent. Et on leur fout la paix. Nous voulons la paix des chiens. Nous sommes des chiens de bonne volonté. Et nous ne sommes pas contre le fait qu'on laisse venir à nous les chiennes, puisqu'elles sont faites pour ça et pour nous. Nous aboyons avec des armes dans la gueule, des armes noires et blanches comme des mots noirs et blancs. Noirs comme la terreur que vous assumerez, blancs comme la virginité que nous assumons. Nous sommes des chiens et les chiens
quand ils sont dans la compagnie, ils se dérangent, ils se décolliérisent et posent leur os comme on pose sa cigarette quand on a quelque chose d'urgent à faire même. Et de préférence, si l'urgence contient l'idée de vous foutre sur la margoulette. Je n'écris pas comme De Gaulle ou comme Perse. Je cause et je gueule comme un chien. Je suis un chien.
Léo, cette musique à l'époque a surpris.
Surpris, oui, oui, sûrement elle a surpris parce que c'est pas la musique de moi, hein, d'ailleurs. J'avais un jour, j'avais été au Canada et puis le directeur artistique avec qui je travaillais chez Barclay m'avait dit tu devrais aller à la fin un jour à New York, c'est comme ça que j'étais un jour à New York, pour rencontrer et pour faire le chien avec Jimi Hendrix. J'ai dit alors, mais on lui a donné la traduction, ça, enfin moi je suis allé à New York, je suis allé au studio et... On a attendu, puis il n'est pas venu. Puis quelques temps après, il est mort. Hein. Alors, il y a eu un guitariste, un contrebassiste, un percussionniste, qui après ont eu un grand nom à l'Amérique, qui sont venus et pour enregistrer cette musique. On leur avait dit ce dont il s'agissait. Ils ont enregistré cette musique qu'ils avaient envoyée chez Barclay. C'est comme ça que les Zou, en écoutant cette musique, ont fait ça. Voilà.
Quelles étaient tes affinités avec le groupe Zou, un groupe qui n'était pas spécialement branché sur ce que tu faisais, toi?
Non, mais c'était... Richard Marsan m'avait dit, chez Barclay, est-ce que tu voudrais faire une tournée avec les Zou? Comme ça, il m'a expliqué ce que c'était, parce que ils sont pas connus. Alors, je dis oui. Et je suis parti avec eux, on a fait cette tournée avec les Zou, qui n'était pas toujours facile, hein, parce qu'il y avait des trucs terribles dans les salles. À la salle Vallier à Marseille, qui est une grande salle, je crois qu'on avait arrêté une fille dans l'après-midi qui faisait des trucs, des scandales, je ne sais pas quoi. Enfin, et alors, si on arrête une fille devant un théâtre, ou à propos d'un théâtre où je suis, je deviens le flic, moi. Dans la tête des gens. C'est vrai. C'est comme ça, quoi. Alors, j'ai chanté avec les Zou pendant 2 heures, et pendant 2 heures, ça a été terrible. Ça a été le brouhaha total. Et il y avait une espèce de... On pouvait parcourir le théâtre, la scène, là, devant, en bas. Les gens pouvaient marcher. Et pendant tout le temps, il y avait des types qui marchaient, qui venaient me cracher sur les pantalons. Et j'ai chanté. On saura pourquoi j'ai chanté, quoi. Parce que j'ai un copain de Marseille qui a trouvé un comme ça, il l'a tapé sur l'épaule, il venait de cracher, il a tapé sur l'épaule, le type s'est retourné, il a envoyé un gros molard dans la gueule, comme on dit. Hein. Et ça a été souvent comme ça avec les Zou, c'était pas facile. Avec eux, je me suis bien entendu, ils étaient gentils. Et quand on a fini cette tournée, ils se sont séparés parce que 2 d'entre eux sont partis, ou 3 d'entre eux sont partis faire autre chose. Toujours de la musique, quoi.
Les gens, il conviendrait de ne les connaître que disponibles à certaines heures pâles de la nuit. Avec des problèmes d'hommes, simplement des problèmes de mélancolie. Alors, on boit un verre en regardant loin derrière la glace du comptoir et on se dit qu'il est bien tard.
Nous avons une nuit comme ça, moi et moi, accoudés à ce bar, devant la pierre allemande. Quand je nous y revois, des fois je me demande si les copains de ces temps-là vivaient parfois.
Richard, ça va?
Si les copains cassaient leur âme à temps pressé, le citron de la nuit dans les brumes pernaud, si les filles prenaient le temps de dire un mot à cette nuit qui les tenait, qui les berçait.
Richard, ça va?
À cette nuit, comme une sœur de charité, longue robe traînant sur leurs pas de bravade, caressant de l'ourlet les pâles camarades qui venaient pour parler de rien ou d'amitié.
Richard, ça va?
Nous avons une ennui comme ça, moi et moi, accoudé à ce bar devant la bière allemande, quand je nous y revois, des fois je me demande si les copains de ces temps-là vivaient parfois.
Richard, hé, Richard. Les gens, il conviendrait de ne les connaître que disponibles à certaines heures pâles de la nuit, près d'une machine à sous, avec des problèmes d'hommes, simplement des problèmes de mélancolie. Alors, on boit un verre en regardant loin, derrière la glace du comptoir. Et on se dit qu'il est bien tard. Qu'il est bien tard. Richard, encore un petit pour la route.
Monsieur Richard, le dernier, pour la route.
Alors tout le monde connaît votre amitié avec Brel, mais j'avais envie de savoir comment un homme comme vous pouvait s'entendre avec quelqu'un comme Léo Ferret.
Vous savez, moi j'ai une tendance à m'entendre très bien avec tous les artistes, avec tous les gens qui ont du talent. Et Léo a un sacré talent. Et on parle un peu le même langage parce que, d'abord, moi je suis compositeur, je fais de la musique, je joue du piano, je sais les produire, je sais faire les équilibres d'orchestre dans les studios. Enfin, finalement, j'ai acquis une certaine technique, si vous voulez, et un certain langage pour que les artistes m'aiment bien et se rendent compte qu'on parle de la même chose. Mm-hmm. Ce qui n'arrive pas maintenant dans les grandes industries parce que il y a des gestionnaires qui connaissent pas forcément ce que la musique. Parce que moi je suis un musicien né, alors c'était ça les rapports finalement avec mes artistes.
Mais humainement avec Ferret, Comment c'était? Parce que vous, vous êtes une sorte d'anarchiste de droite, lui, une anarchiste de gauche.
Non, j'ai jamais été ni de droite ni de gauche.
Un peu iconoclaste, disons.
Alors franchement, c'est de la politique, et moi, vous savez, on fait pas très bon ménage.
Enfin, Ferré, c'est quelqu'un d'engagé, justement.
Oui, mais moi, je l'engageais pour son talent. Je l'engageais pas parce qu'il était anarchiste, mais ça m'était complètement égal, d'ailleurs, qu'il soit anarchiste. Je lui disais souvent... Il m'agaçait, je tapais sur la tête, et on s'entendait bien, parce qu'on savait bien que finalement on allait arriver à la fin de la grande conversation philosophique, à parler de la chanson qui allait sortir la semaine d'après.
Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance comme une chauve-souris s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Des cloches, tout à coup, sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement. Ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre au pignat. Et de longs corbillards sans tambour ni musique défilent lentement dans mon âme. L'espoir vaincu pleure et l'angoisse atroce despotique sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.
Et est-ce qu'il a réussi à vous influencer sur certains disques?
Non, pas du tout. Non, mais vous savez, il ne se mêlait pas, hein, du tout. Il était très correct pour ça. On a eu des petites histoires pour des chansons, bon... Enfin, ça... Je ne vais pas raconter ça maintenant, ça n'a pas d'importance. Et ce qu'il y a, c'est que... C'était le mec de la maison, quoi. On voyait que lui.
Et vous êtes parti le jour où on a cessé de ne voir que lui et qu'on en a vu beaucoup d'autres?
Non, pas du tout. Je vais signer un contrat, il y a un contrat d'option, je vais signer. Il y a toujours des contrats d'option qui duraient un mois. Qui duraient un an, je le faisais mettre à un mois. Mmh. J'ai eu signé 4 contrats chez lui. Dans les 3 premiers contrats, c'était comme ça. Puis, il y a eu un 4e contrat qui était imprimé d'une façon différente, en tout petit, vous savez. Vous savez que les artistes ne lisent jamais, ça. Ils ont tort. Et il y avait un contrat d'option de 2 ans, je ne l'ai même pas vu, quoi. Et j'ai signé le dernier contrat qui était de 5 ans, avec cette clause d'option. Et alors, bon, à la fin, j'ai attendu la fin, puis ça s'est terminé comme ça.
Et qu'est-ce qui fait qu'on part d'une maison de disques? Parce que c'est comme une maison, on connaît tout le monde, on est chez soi, c'est dur de partir.
On part d'une maison de disques lorsqu'il y a quelque chose qui tombe pas rond, qui va pas, quoi. Avec Barquet, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu cette clause d'option qui a fait qui m'a énervé, quoi. Moi, c'est très amical, j'ai dit, parce que je le considère un peu... comme un ami, vraiment, comme dans une certaine mesure, dans ce que je fais dans mon métier, comme de ma famille, vous voyez. Et en 75, en avril-mars 75, j'avais été chanté en Suisse, à Genève, avec l'orchestre des jeunes étudiants américains qui étaient venus ici pour se réunir, pour apprendre à jouer ensemble, vous voyez. C'est un orchestre fantastique, il fallait travailler beaucoup. Moi, c'était une histoire extraordinaire. Et quand je suis parti, j'avais fait une tournée de 4 représentations. Quand je suis parti à l'aéroport, j'ai rencontré Barclay, qui venait de Rio. Ouais. Il avait un problème dans sa vie, c'était le carnaval de Rio. Je dis un problème parce qu'il fallait qu'il y aille, n'est-ce pas? Bon. Et c'était peut-être aussi un problème pour les autres. Alors, c'était la fin de mon contrat et je lui ai fait dire par le directeur artistique, tu vois, si tu étais venu à Genève, si tu avais fait un disque, un enregistrement, et que tu n'aies fait qu'un disque que tu m'aurais vendu à moi, par exemple, j'aurais signé avec toi de nouveau sans condition. Oui. Et...
Donc à la limite, le patron d'une maison de disques, c'est le premier qui doit vous aimer le plus.
Je crois, oui. Mais ce type, je ne peux pas l'oublier, lui en vouloir, parce qu'il a un geste avec moi extraordinaire. En juillet 77, un jour, il m'avait demandé, en 76, après que j'ai fini, que j'avais terminé chez lui, je l'avais vu, on avait déjeuné ensemble, et il me dit, tu fais un... Attendez voir, que je lui demandais... Oui, je lui demandais 15%, 5% de plus sur l'exploitation de mon catalogue. J'avais 10% sur le prix de gros, sur les 90% des ventes. J'avais rien demandé en plus. Ça faisait 14 ans que j'étais chez lui. Je lui dis, donne-moi 15% au lieu de 10, quoi. Il me dit, comment tu donnes 3 disques? Je dis non. 2? Non. 1? Non. On verra. Puis on s'est quitté. En juillet 77, il est venu me voir à l'hôtel à Monaco où j'étais. Il est venu me voir, il m'a demandé, à la réception, il m'a donné une lettre. Et dans cette lettre, il y avait écrit, à partir du 1er juillet 1977, Léo Ferré aura 15% au lieu de 10 sur tout son catalogue. Et je lui ai fait ajouter, moi, sur 100% des ventes, alors que c'était 90. Et j'ai dit, on verra. Je n'ai plus vu. Je trouve que... Il savait très bien que... Il a fait ça, c'était affectueux de sa part. On n'en a jamais tellement parlé, c'est pour ça que j'aime bien ce type.
Merci.
Je vous en prie.
C'est ce qui manque dans ce monde. C'est ce qui manque. L'intelligence. La connerie, c'est trop vivant, trop présent.